Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 15e épisode de Popcorn Salé saison 15. Je suis Enora et suis aujourd'hui accompagnée de Jeanne.
Bonsoir.
De Margot.
Bonsoir.
Et de Thaïs.
Bonsoir.
Au programme de ce soir, une discussion du côté du mytho français sous le feu des projecteurs en ce moment avec les plaintes du nom Gérard Depardieu ou encore celle émise par Judith Godrèche qui cite Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Ensuite, nous passerons aux débats enflammés sur les sorties de la semaine entre un biopic théâtral, le Molière imaginaire d'Olivier Py, une romance hantée par les fantômes du passé, Sans jamais nous connaître d'Andrew Hay, et enfin un documentaire pour le moins sanglant, Chaîne de rouge de Yamina Zuta. Pour commencer, nous allons donc nous pencher sur cette vague de témoignages de violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma français. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire dessus, Jeanne?
Déjà, je pense que je peux reprendre ce qui a été dit par Mediapart, qui a fait une émission consacrée à la question en présence de plusieurs femmes qui ont pris la parole, que ce soit Adèle Haenel, Charlotte Arnoux ou Judith Godrèche plus récemment, en évoquant cette espèce d'inlassable coup de départ, coup de feu du MeToo français. C'est-à-dire que les plaintes, les années passant sortent, font la une des journaux, et pourtant on a l'impression que chaque fois on peine, et en particulier le traitement médiatique peine à se saisir véritablement de la question, et puis plus largement que le monde du cinéma et que l'industrie du cinéma a du mal à emboîter le pas ou à reconnaître ses paroles. On le voit à coup de contre-tribunes signées par des personnalités. Il y a effectivement et évidemment des améliorations. Mais ça semble être une espèce de cycle infernal, et c'est peut-être lié au fait que la France, mais le cinéma français dans son âge d'or des années 60 a eu un traitement aujourd'hui impensable, ou du moins vraiment condamnable, des figures féminines, des actrices, les rôles, des rapports entre justement actrices et réalisateurs. Et quelque part, on a l'impression que ces plaintes, pour certains, elles voudraient dire devoir jeter à la poubelle tout ce cinéma français dont on s'est pourtant enorgueilli pendant si longtemps. Évidemment, je pense que ce n'est pas du tout notre point de vue à Popcorn. En tout cas, on sait bien ne pas séparer l'homme de l'artiste plutôt. Et je pense que le cas de Judith Godrèche est vraiment très intéressant. Peu de temps après avoir sorti sa série en partie autobiographique Icon of French Cinema, qui est disponible sur Arte au visionnage, elle a pris la parole de façon plus longue et poussée sur la relation qu'elle a entretenue, ou qui a été entretenue avec elle par Benoît Jacquot, un réalisateur qui donc l'a portée à l'écran quand elle n'avait que 14 ans, et qui dans la foulée en a fait sa petite femme au nom de la muse et de l'artiste. Et elle revient dessus aujourd'hui en essayant de secouer, je pense, des regards et des consciences, et de dire, tout le monde savait que j'avais 14 ans. Déjà à l'époque, j'étais mineure, et pourtant personne n'a rien fait, et pourtant son statut de réalisateur l'a protégée. Et en fait, elle vient porter ce témoignage comme une espèce, comme un exemple, un cas typique de ce que pourrait être le French Me Too. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que là, on a une réponse notamment des cahiers du cinéma, de Télérama, de films qui ont fait l'éloge de Benoît Jacquot et de ses films, par exemple La Désenchantée, dans laquelle Judith Godrèche joue, dirigée par Benoît Jacquot. Ils reviennent dessus et disent effectivement, on a été enfermé dans un regard qu'aujourd'hui, on ne peut plus assumer. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Moi, en tant que cinéphile, j'ai vu La Désenchantée quand j'avais 15 ans, et j'ai regardé les films de Benoît Jacquot dans la foulée en le plaçant comme une espèce, non pas de figure subversive, mais en tout cas romantique, dévouée à son art. Et aujourd'hui, grâce aux témoignages s'accumulant et au changement de regard, l'évolution des regards et les prises de parole de plus en plus nombreuses, j'arrive à prendre la distance nécessaire pour affronter ce cas typique et me rendre compte en quoi il est si typique justement d'un système qui a exploité les femmes, les asexualisées et surtout les très jeunes filles.
Pourquoi, à votre avis, tout ça en France est sorti si longtemps après le MeToo américain, donc, et c'était en 2017 je crois les premières plaintes visant Harvey Weinstein? Est-ce qu'il y a un système qui fait que, comme tu le disais, des grands bonds, des critiques, etc., ou même des réalisateurs étaient enfermés dans un certain regard en France qui différait d'un système américain ou des autres systèmes du cinéma. Je ne sais pas si vous avez une réponse à apporter.
Moi, je pense quand même qu'il y a une spécificité, non pas dans le phénomène évidemment des violences sexistes et sexuelles qui, malheureusement, dès qu'il y a un petit peu de pouvoir extrêmement présent, je pense quand même qu'en France, on a une certaine manière de voir, c'est clairement ce dont tu parlais, Jeanne, hein, une certaine manière de voir l'artiste et de considérer les réalisateurs comme vraiment des artistes à part entière, là où peut-être notamment à Hollywood, le réalisateur n'est pas nécessairement vu comme l'artiste avec un grand A qui chapeaute ce projet de A à Z, qui est le seul tenant de la vision artistique du projet et qui a vraiment la main sur tout. Là où en France, et en particulier en fait, dans un cinéma d'auteur qu'on affectionne, mais où effectivement je pense que les réalisateurs ont eu encore plus de liberté et surtout encore plus de crédit qui a été donné par des médias qui en France sont historiquement très influents dans le milieu du cinéma, comme les Cahiers ou Télérama. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de spécificité française qui tend à peut-être un petit peu s'affaiblir actuellement, et c'est vrai que c'est quand même très intéressant de voir que des médias se font un petit peu leur mea culpa et reconnaissent effectivement ce système-là qui a été la cause de beaucoup de choses très dommageables.
J'ajouterais que le cas, le MeToo américain s'est cristallisé autour d'une seule et même figure. Mmh. C'est-à-dire que
par de producteur en plus.
Voilà, et de producteur.
C'est pas la même chose que le réalisateur, le cinéaste, l'artiste.
Clairement. Et en ce sens, je pense qu'il faut aussi voir la façon dont un certain cinéma en France, et un cinéma que par ailleurs moi j'affectionne, mais a délibérément brouillé les frontières entre le vrai, le faux, le champ et le hors-champ. Et ça, j'ai l'impression qu'effectivement, Hollywood, en tant que grande fabrique des images, a beaucoup moins cet enjeu-là à mettre sur le tapis.
Et en fait, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, notamment avec l'affaire Weinstein, ces accusations-là, et je pense, ces cas-là se sont cristallisés autour de son pouvoir énorme en tant que producteur, là où en France, c'est peut-être un petit peu plus brouillé, et c'est pas seulement autour du pouvoir, mais aussi autour du crédit et de l'aura et de l'idéal d'artiste.
Oui, parce que les réalisateurs qui ont été visés, donc Jacques Doyon, Benoît Jacquot, Philippe Garrel, etc., et j'en passe, c'est des gens qui, certes, sont connus des cinéphiles et du gotha cinéphile, genre les Cahiers, etc.
Germano Pratin.
Exactement. Mais je ne pense pas que si vous allez partout en France, tout le monde les connaisse. C'est plutôt quand même des gens, certains cinémas d'auteur, je veux dire.
Oui, c'est représentant même de ce cinéma d'auteur. Parce qu'en vrai, Benoît Jacquot a quand même eu une carrière très prolifique.
Oui, non, mais oui.
Je précise d'ailleurs, c'est pas complètement l'objet du débat, mais moi, dans la foulée de La Désenchantée, quand j'ai pu voir d'autres films de Benoît Jacquot, en y repensant, même un an plus tard, c'est pas des films qui me semblaient pourtant si remarquables que ça. Donc,
pour remettre ça dans l'actualité, en fait, mercredi 14 février. Un amendement sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma a fait l'unanimité au Sénat et a prévu notamment le retrait des aides du CNC aux productions en cas de violence avérée. Donc bon, c'est encore à voir, mais c'est déjà un premier pas peut-être.
Non, mais en fait, ce qui est aussi désespérant, c'est qu'il y a des pas qui sont faits, je le disais tout à l'heure, dans le traitement médiatique qui, mine de rien, entre 2017 et aujourd'hui, il a évolué. Mais pour autant, c'est des mentalités qui sont très très figées. C'est même quand il y a des pas qui sont faits, il y a une espèce de surprise générale à chaque fois. Des agresseurs sexuels
Puis des pétitions.
Tu vois, effectivement. Oui. Après, bon, il y a le fameux effet de backlash aussi. C'est-à-dire que plus les dénonciations sont fortes et grandes et que les rangs se gonflent, plus le front adverse va se montrer radical dans sa position à lui.
Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même moins de radicalité de ce front adverse, comme tu dis, par rapport à l'histoire de Judith Godrèche.
Mais je pense que c'est parce qu'elle est mère.
Il y a quand même eu Annie Dupéret qui en a parlé, etc. Bon, elle a eu un droit de réponse après.
Mais... Non, mais j'allais dire, ce qui est tragique, c'est que les interviews de Benoît Jacquot sont sans... sont indiscutables, quoi.
Ouais.
C'est un peu de la même façon que, bon, Gérard Depardieu a eu cette tribune
dans le cache investigation.
Égard, mais dans le cache investigation, moi, j'ai entendu peu de personnes capables de soutenir que ces images étaient tolérables, moralement, ok. Mais on verra peut-être dans une semaine si justement ces derniers échos, enfin, pas échos, mais plutôt ces dernières prises de parole qui quand même secouent un petit peu l'actualité du monde du cinéma vont trouver leur place au César dans les discours des uns et des autres. Enfin, en tout cas, moi, je suis curieuse de voir ce que va donner cette cérémonie qui, soi-disant, réunit la grande famille du cinéma français dans un contexte tel. Enfin, la dernière fois que ça s'est passé, ça s'est mal passé. Mais...
Ouais. Nous allons passer maintenant à Sans jamais nous connaître, que Thaïs va nous présenter.
Sans jamais nous connaître, c'est un film qui a été écrit et réalisé par Andrew Hay, et c'est en réalité une adaptation d'un roman de Taishi Yamada, et c'est la seconde adaptation, puisqu'il y avait le film japonais Les Désincarnés, en 1988. Dans cette version, on retrouve Andrew Scott et Paul Mescal, et c'est un film qui a été plutôt salué par la critique, qui a été d'ailleurs nommé comme un des 10 meilleurs films indépendants de 2023, National Board of Review. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que Enora, tu en as pensé.
Alors déjà, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt un beau film, surtout grâce à ses acteurs, Paul Mescal, Supremacy, évidemment, mais aussi les trois autres. J'aime beaucoup Claire Foy, qui d'ailleurs, je trouve, a un petit air de famille avec Andrew Scott, donc ça fait sens qu'elle joue sa mère. Enfin, bref. Et la trame narrative est plutôt intéressante, ça, qui mélange présent et passé, rêve et réalité, histoire familiale et amoureuse, toute une histoire de fantômes aussi. Mais en fait, le problème que j'ai eu avec ce film, c'est que je l'ai trouvé un peu tire-larme, dans le sens où, dans le montage notamment, il y a beaucoup de fondus en guise de transition, il y a la musique triste et évidemment mise au bon moment, des scènes un peu attendues. Et je trouve que même si l'histoire racontée était bouleversante, on peut quand même pas s'empêcher de penser, et c'est, je trouvais qu'en fait l'empathie qu'on ressentait et la tristesse qu'on pouvait ressentir en regardant ce film était créée artificiellement, et que évidemment que, enfin, ce serait être un monstre que de ne pas ressentir de l'empathie. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était artificiel. Voilà, je sais pas ce que toi, Margot, tu en as pensé.
Alors moi, j'ai un avis extrêmement défavorable sur ce film. J'ai passé un très mauvais moment. Et je trouve que normalement, je me donne la qualité que j'arrive à apprécier des films au dixième degré. Là, vraiment, c'était irrattrapable. Mais en fait, ça m'a énervé, ce film m'a énervé. C'est vraiment le cliché des films type Sundance. C'est vraiment... Alors moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Aftersun, que j'avais déjà pas aimé. Mais là, en fait, c'est juste, c'est écrit, mais avec
des pieds.
Avec les pieds, genre, c'est pas possible. Il y a des dialogues, les gars, j'ai eu l'impression de regarder un documentaire de France TV Slash sur l'homosexualité. Genre, ça, c'est pas possible. Il y a des
très bons documentaires sur France TV. Et j'ai trouvé que l'histoire entre les deux était moins bien écrite que l'histoire avec la famille.
Mais même l'histoire avec la famille, je suis désolée, mais pourquoi pas convoquer un email, enfin, quelque chose d'onirique. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, cette histoire d'être hantée par les fantômes du passé, mais là, c'est vraiment le film le plus littéral que j'ai jamais vu. Genre,
quelle en est l'histoire?
C'est l'histoire d'un homme qui est scénariste pour la télévision.
En plus, c'est original.
Et qui habite dans un immeuble vide. Donc déjà, c'est un peu incompréhensible. On ne sait pas trop pourquoi l'immeuble est vide, etc. C'est...
Oui, alors un immeuble, par ailleurs, en plein nombre. Hein, c'est vraiment hyper crédible.
Oui, quand un peu immeuble de bureau vide. Mais il a un appart dedans. Et un jour, il y a son voisin qui... Et il se trouve qu'en ce moment, il est en train d'écrire un scénario sur ses parents, qui sont morts dans un accident de voiture quand il avait 12 ans. Voilà. Et un jour...
Il y a vraiment une patte à faire ça, en fait.
Mais oui, mais bien sûr, elle est dans une sorte de nostalgie, les musiques des années 80.
On a le droit de parler du deuil.
Non, merde. Mais parce qu'elle était déjà scénariste. Enfin,
non, mais oui, si tu veux. Mais je suis désolée, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté Aftersun, et notamment dans le fait qu'il y ait des musiques des années 80 qui soient hyper présentes. Genre, il a réussi à me faire détester les Pet Shop Boys, hein, clairement. Vraiment, c'est extrêmement redondant. Et en fait, ce dont tu parles, Enora, quand tu le racontes, ça il y a un potentiel, mais en
j'ai
fait...
J'ai pas fini de raconter.
D'accord, pardon, vas-y.
Non, attends, je finis
juste pour... Vous ne saurez jamais, en fait.
En fait, un jour, je vais plus vite, du coup, il y a Paul Mescal qui toque à sa porte, et en fait, c'est son autre voisin, ils sont deux dans cet immense immeuble, et évidemment, il est gay, et évidemment, il va y avoir une histoire entre eux, Et pendant qu'ils ont cette histoire, lui va retourner par moments dans la maison de son enfance, sauf que quand il y retourne, c'est comme si ses parents étaient encore vivants et qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 20 ans. Et il leur raconte tout, il rattrape le temps perdu, on voit sa mère qui est d'une autre époque face au coming out de son fils, etc. Et voilà.
Bon, une belle histoire d'amour et de résilience, quoi.
Non, mais ce que je voulais en dire, c'est que toutes les idées qui auraient pu être un minimum intéressantes sont évacuées extrêmement vite, notamment par exemple son travail de scénariste. Alors on apprend au détour d'un plan très mal cadré qu'en fait il écrit sur ses parents, et alors c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qu'on a là-dessus. Donc déjà, pourquoi avoir fait de ce mec un scénariste si on... Enfin, ça n'a aucun intérêt.
Ouais, vraiment, c'est un métier.
Oui, mais d'accord, mais du coup, ça, c'est juste vraiment le choix de facilité. Ouais. De toute façon, ce film, ce n'est que des choix de facilité. Et donc moi, il y a quand même des dialogues qui m'ont fait m'effondrer dans mon siège tellement c'était mauvais. Enfin, genre, notamment, je trouve que les pires scènes du film, de très 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 loin, et elles sont très présentes puisque c'est vraiment la moitié du film, c'est toutes les scènes en fait, où il dialogue avec ses parents, mais d'ailleurs ses parents en fait qui sont figés dans l'âge qu'ils avaient au moment où ils sont morts. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il est face à des acteurs qui ont le même âge que lui, quoi. Enfin, qui sont même plus jeunes. Et c'est d'une... Enfin, je sais même pas comment vous le décrire. Enfin, sincèrement, je pense qu'à l'âge de 10 ans, on aurait tous écrit des meilleurs dialogues que ça. Parce que c'est juste incroyablement mauvais. Il y a des trucs, mais c'est lunaire. C'est genre... Mais en fait, c'est tellement explicatif.
On veut des exemples.
Mais par exemple, à un moment, c'est des trucs genre « Oh, ça me fait tellement plaisir, maman, de pouvoir te dire ces choses que je n'ai pas su te dire à l'époque. » Et après, elle dit «
Moi, je trouve ça
oui. » Oui. Et après, elle te dit « Oui, mon fils, ça me fait tellement plaisir qu'on puisse avoir cette conversation. Dommage que je sois morte. » Et t'es en mode « C'est pas
le menu enfant, en fait.
Oui.
Le menu famille, ça fera beaucoup pour vous tout seul, alors qu'il y a des parents en face. »
C'est tellement...
pas vraiment là.
En fait, c'est tellement explicatif. Oui. C'est pas possible de faire des trucs aussi explicatifs. Hein.
En fait, on dirait que il coche, enfin le réalisateur coche un peu des cases qu'on s'attendrait à voir dans un film notre époque. Genre, il y a un moment, ils vont en boîte, il y a
les lumières. Alors, moi, déjà, j'ai décidé que je ne voyais plus de film et il y a une en boîte.
Est-ce qu'il y a des néons exactement rose et bleu?
Exactement. Est-ce que. Est-ce qu'il fait un bad trip? Est-ce qu'ils ont tous. Parce qu'en fait, là, on va pas vous raconter la fin. Mais c'est-à-dire que je pense que vous allez encore mieux comprendre mes propos quand, si un jour, en tout cas, vous voyez le film et que
Paul Mescal est aussi un fantôme.
Non, mais c'est de cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement nul en plus de ça? Une photographie qui est extrêmement basique, enfin, aucune idée de mise en scène.
J'avais l'impression, je sais pas toi, mais que les spectateurs savaient déjà ce qu'ils allaient penser du film avant de l'avoir vu. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que tout le monde était dans un état d'esprit. On va aimer ce film et on rigole au bon moment, on pleure au bon moment, etc. Et du coup, en fait, c'était un film, je trouvais, qui était assez attendu sur ce côté-là. Qui était... Enfin, moi, je ne l'ai pas détesté, mais je l'ai trouvé artificiel.
Oui, enfin, j'imagine que ça répond. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je le compare à Aftersun et je le compare à tous ces films qui déclenchent des espèces de tendances sur TikTok. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, si ça amène les gens au cinéma. Mais la vérité, c'est que autant Aftersun... qui était, je trouve, extrêmement contenu et très attendu, il y avait quand même beaucoup de choses à sauver. Là, il n'y a vraiment rien à sauver. Enfin, je suis désolée, je pense qu'on peut quand même faire des films avec des acteurs très sexy qui savent jouer, avec des scènes de cul, et quand même un film qui se tient. Enfin, là, je suis désolée, mais à part...
Ni fait ni à faire.
Enfin, vraiment, ni fait ni à faire. En plus, c'est, enfin, vraiment, rien ne va. Ces personnages sont les mêmes. Enfin, en fait, tout le... Enfin, la trame narrative du film est tellement pauvre, l'univers est tellement pauvre, c'est nul, c'est mal écrit, mais tu sens que vraiment le mec est là pour cocher des cases, notamment sur le traitement de l'homosexualité, où t'as vraiment des dialogues, mais d'une médiocrité sans nom, où c'est vraiment des trucs du style « Oh, c'est vrai qu'être gay dans les années 80 avec le sida, c'était pas facile, maintenant c'est mieux, mais c'est quand même difficile d'être rejeté », et t'es en mode « Franchement, s'il vous plaît, quoi ». Genre, on est en 2024, on peut pas écrire des trucs comme ça, enfin...
Et puis comme par hasard, les deux personnes qui habitent dans un immeuble vide sont deux hommes... plutôt jeunes,
aucun ami, aucun travail, qui n'ont rien,
et qui n'ont pas de background à part
des parents morts.
Il y a pléthore d'histoires hétérosexuelles nulles.
Non mais oui, non mais
c'est ça. Et ben il paraît que la communauté LGBT et les siennes aussi.
Oui, mais là il y a un côté en fait genre politiquement correct que je trouve ça m'énerve.
Donc vous n'êtes pas obligé d'aller connaître sans jamais nous connaître comme le titre le dit si bien. Et maintenant, Jeanne, tu vas nous présenter le volet imaginaire d'Olivier.
De la même façon que, sans jamais nous connaître, le Molière imaginaire pardon, de Olivier Py a été couvert d'un petit macaron MK2 révélation type MK2 approuve, donc on pourra en débattre juste ensuite. Le thème donc, de ce Molière imaginaire, c'est de raconter les deux dernières heures de vie de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, qui, comme le veut la légende, est mort sur scène, malade, crachant ses poumons. Et Olivier Py, donc, qui est bien connu comme metteur en scène, directeur d'institutions théâtrales d'envergure en France, notamment l'Odéon, puis le Châtelet, le Festival d'Avignon, qui est une grande figure du théâtre contemporain, nous dresse ici ce portrait de ces deux dernières heures à travers un faux, mais bon, trucage de plan-séquence sur une heure et demie, et où en fait c'est essentiellement les coulisses effectivement du théâtre qui vont nous être montrées, le public, en fait tout ce qui se passe au théâtre mais qui n'est pas sur scène, avec évidemment quelques passages sur les planches par moment, pour nous montrer ce qu'il en est, l'intimité finalement de cette troupe, de ces tumultes, de ces conflits, de ces amours aussi. Et Thaïs, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Écoutez, moi je suis un peu embêtée avec ce film. Je suis allée le voir avec beaucoup d'a priori. Je m'attendais à passer un sale quart d'heure, enfin 7-2 heures. Et j'ai trouvé qu'il faisait une proposition assez intéressante, mais qui malheureusement comporte des sorties de route absolument impardonnables. Ce qui fait que à chaque fois, la sortie de route faisait que je sortais du film et je me disais non, mais plus jamais, c'est atroce. Et pourtant, il revenait avec des propositions qui me faisaient repenser un peu mon avis à chaque fois. Déjà, je trouve que le plan séquence, pas profondément original, parce que voilà, ça fait revenir cette idée de, en fait, les deux dernières heures de la vie Molière, c'est une pièce de théâtre, donc il y a une idée de mise en abyme. Et donc, le plan séquence est assez pertinent, mais en même temps pas profondément original. Mais ce qui m'a beaucoup embêtée, c'est que je trouve qu'il y a des plans absolument superbes, mais à chaque fois, la caméra est mal placée, soit un peu trop en avant, soit un peu trop loin. Et du coup, je trouve que les décors profondément baroques, encore une fois, c'est pas très original, mais en même temps, je trouve que ça fonctionne assez bien, perdent de leur... perdent leur valeur à cause de cette caméra qui, franchement, mais parfois il y a des mouvements, Margot reviendra dessus, mais des mouvements de caméra brusques, mais on se dit, mais qui est derrière, mais je m'excuse à la personne qui est derrière, mais j'ai noté le nom dans mon carnet, quoi, parce que c'est un peu compliqué. Et j'ai trouvé que le texte, parce que c'est quand même pas évident de tenir deux heures avec un texte, un langage du XVIIe siècle, il n'est pas bon tout le temps, et comme je disais, il y a des sorties de route avec des dialogues franchement écrits, c'est même plus avec les pieds là, mais il y a aussi des trouvailles, je pense notamment à la scène avec Madeleine Béjart en dessous des planches, je pense à la scène avec les trois vieilles précieuses qui sont excellentes, il y a quelque chose de absolument théâtral, mais c'est complètement assumé. Mais voilà, les sorties de route sont juste très compliquées, mais très souvent portées par les mêmes personnages, à savoir
Michel Baron.
Et Armande Béjart, qui est, excusez-moi, mais absolument mauvaise dans ce film. Je ne vais pas citer l'actrice parce que voilà, c'est un discours à charge, mais voilà,
on a le droit de dire que Stacy Martin est une mauvaise actrice. Enfin, moi, j'assume ce propos. Personnellement. C'est même pas ta faute, elle est juste tellement mal castée pour le rôle. Enfin, qui s'est dit que c'était une bonne idée de la faire incarner Armande Béjart ? Enfin, c'est même pas de sa faute, je crois.
En fait, là où je suis vraiment en désaccord avec toi, Thaïs, c'est que moi j'ai trouvé que le film était vraiment lourd, pesant, trop, partout, tout le temps. Je parle de sortie de route, mais le film est une sortie de route. C'est-à-dire que les mouvements de caméra sont incessants. Effectivement, les décors baroques, le plan séquence, tout ceci, ça se justifie en termes d'intention. Mais le résultat est dégoûtant, enfin écœurant. Moi, j'en ai eu la nausée. Et honnêtement, au bout d'un moment, j'ai fini par le voir comme une parodie. Parce que à force d'avoir, surtout Michel Laron, alors lui, là, irrattrapable. Mais le côté Mozart, l'opéra rock, j'ai du col sous les yeux et
j'ai un petit pantalon Zara en
simili. La scène du bain.
Mais le problème, c'est qu'on nous fait croire que ces moments-là sont les moments de grâce. Donc il faut imaginer le reste quand même.
Je sais pas en fait si effectivement j'excuse parce que j'aime à penser que lui-même faisait la proposition d'une parodie. Donc peut-être qu'effectivement je me trompe.
En tout cas, moi j'avais vraiment l'impression, c'est ce que je disais en off, mais j'assume que j'ai eu accès au fantasme érotique d'Olivier Py et ce à quoi il pense avant de s'endormir le soir, si jamais il était Molière. et ça m'a gênée et j'ai trouvé ça de très mauvais goût.
Mais l'aspect parodique, il y a évidemment.
Non, mais il y a quelque chose d'assumé dedans.
Théâtralité qui fait qu'en fait, il n'y a aucune frontière entre l'effet parodique qui est joué sur scène. Et celui qui apparaît en coulisses.
Moi, je pense que c'est un peu facile de voir le film entièrement au second degré. Je pense qu'il y a une part très assumée, et d'ailleurs,
c'est pas un second degré, c'est une construction théâtrale qui fait qu'en fait, il n'y a aucun jeu entre, il n'y a aucune différence entre le passage hors scène et le passage sur scène.
Pour la défense de ce film, moi, j'ai tendance à souvent dire que le cinéma français manque un peu d'audace formelle, manque de propositions. On ne peut pas reprocher au film de manquer de propositions. Mais à force de propositions, on est obligé de se demander s'il a choisi les bonnes et s'il en a de bonnes tout court. Et moi, c'est ça ce qui m'embête. C'est qu'il y a un aspect parodique assumé ou baroque ou une mise en abîme de théâtre dans le théâtre. D'ailleurs, Olivier Py disait qu'il n'avait pas envie de faire du théâtre filmé, et effectivement, c'est pas ce qu'il fait. Donc ça, de ce point de vue-là, je veux dire, tous ces choix, encore une fois, se justifient, mais le résultat, pour autant, moi, je le trouve est extrêmement désagréable en tant qu'expérience de spectateur, et ça, je suis pas sûre que ce soit voulu.
Après, oui, en fait, je suis assez partagée aussi sur ce film, et je dirais que je suis à la fois d'accord avec vous deux, parce que je trouve que c'est un film devant lequel on a du mal à se situer en tant que spectateur, parce que c'est, en fait, je pense que c'est cette question du degré de lecture qui m'a un petit peu perturbée, parce que franchement, moi, j'ai passé un plutôt bon moment pour le film. Honnêtement, j'ai été divertie, mais je me dis, est-ce que j'ai pas été divertie par l'aspect totalement ridicule de la chose, qui n'est pas forcément, je sais pas à quel point c'est là, en fait, c'est difficile de savoir quelle est l'intention première du cinéaste, et moi, j'avoue que je suis assez friand de ces propositions très théâtrales, enfin très baroques, où tout le monde meurt en baisant à la fois. Enfin, c'est très, je trouve ça assez divertissant et assez drôle. Après, c'est vrai qu'il y a des moments qui étaient quand même tellement mauvais que je me suis dit que je n'étais vraiment pas sûre que ce soit dans un but parodique, notamment effectivement des dialogue
de Condé qui aboie à quatre pattes dans pantalon moulant en cuir.
Ça fait partie des multiples sorties troncos qui m'ont
entravé un fantasme à
Ouais, mais après, je trouve que dans la construction du décor, il y a un peu quelque chose de. Tu vois, les décors hors scène, enfin du théâtre, sont vraiment des décors de théâtre, et ça, c'est complètement assumé. Et moi, j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser au Powell et Pressburger, tu vois, les trucs où t'as des acteurs, mais dans des décors, t'as l'impression que c'est presque des marionnettes. Mmh. Moi, et notamment cette scène où, encore une fois, la caméra est mal placée et se déplace d'une mauvaise manière, mais cette scène où il parcourt la salle de théâtre, et donc on voit les groupes de personnages un peu comme des tableaux dans des niches, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et effectivement, moi, je salue la proposition qui a plein de défauts, effectivement, mais je trouve ça assez. Ouais, je trouve ça osé et j'ai aimé la proposition.
Oui, je pense qu'il faut avoir un petit peu je pense qu'il faut avoir de l'indulgence pour ce film en s'imaginant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Je me suis imaginé ce qu'aurait pu être un film sur Molière et sur ses derniers instants, et je me suis dit que ça aurait quand même vraiment pu être vraiment, vraiment, vraiment pire. Oui, dans le sens où, malgré tout, effectivement, il y a cette proposition là enfin, évidemment, après, c'est pas très compliqué quand t'es Olivier Py de faire ressentir ta passion pour le théâtre, j'imagine. Enfin, il y a quand même je sais pas, une certaine intention que tu ressens en tant que spectateur et une certaine énergie qui malgré tout t'embarque, même si effectivement ces dialogues parfois qui sont extrêmement explicatifs sur le théâtre c'est la vie c'est le théâtre. Ouais. Bon,
moi, je trouve effectivement, je parlais de certaines trouvailles dans les dialogues. Par contre, je trouve que à chaque fois, dès qu'il y a une trouvaille, des trouvailles de détails, mais jamais de fond. Et en fait, je trouve que quand même, ce film...
Sur le fond et pas...
C'est un film anecdotique, en fait. C'est sur l'anecdote de la vie de Molière. Mais dans le fond, dès qu'il essaye d'avoir un discours un peu... c'est catastrophique.
Bah, oui,
c'est ça. En fait, soit ça ne dit rien et c'est des lieux communs, soit c'est des lieux communs, mais...
Ouais, il y a quand même un petit côté film pour prof de français dans l'insistance qu'il y a sur certains détails de la vie de Molière. Qui, alors, pourtant, je suis vraiment pas du tout une filmconnaisseuse de la vie de Molière. Et, enfin, voilà, mais bon, c'est vraiment des choses que tu apprends dans tous les collèges, dans toutes les classes de 4e de France, quoi. Sur, ah oui, en fait, Molière a été enterré. Est-ce qu'il va être enterré? Est-ce qu'il va être enterré par l'église ou pas? Non, parce que c'était un comédien et à l'époque, il n'y avait pas la Comédie française. Enfin, c'est quand même un petit peu pesant. Enfin, moi, je trouve que...
Non, mais parce que t'as le sous-texte. Mais en vrai, moi, je trouve que pour un film... Molière, c'est pas très niche, mais toutes les discussions autour de l'illustre théâtre, de la Comédie française, etc. Pour un film grand public, je pense qu'il y a plein de gens qui... Justement, moi, j'ai trouvé que ça parlait de l'Église, mais sans... C'était pas très explicatif. Effectivement, ça pointait du doigt, ça mettait le doigt sur tous ces lieux communs de la vie de Molière. Mais je trouvais que ça tombait pas trop dans l'explicatif prof de français.
En fait, je trouve, je sais pas vraiment là où je vais en disant ça, mais je pense que c'est un bon film des années 80, tu vois. C'est, y a un truc où dans l'image, dans le côté un peu kitsch...
Il y a un côté la Reine Margot quand même.
Et le faire aujourd'hui, le voir aujourd'hui, moi je peux pas m'empêcher d'avoir cette espèce de référent un peu... Ouais, Ça semble d'une autre époque.
Mais c'est un peu suranné, hein, clairement. Un peu
bon, mais franchement, si tu prends les films d'époque qui sont faits.
Oui.
Non, mais là, moi, je les trouve quand même. C'est pour ça que je pense que j'ai été aussi agréablement surprise, malgré ces fautes.
Bien d'en bouffant, c'était sympa.
Mais c'est très compliqué à voir. Et à titre de comparaison, il y a un film là, qui va sortir sur Madame de Sévigné. Je pense que ça va être compliqué.
Donc, comme a dit Margot, soyons indulgents ou pas avec Molière. Et maintenant, je vais vous parler rapidement de Chienne de Rouge, que j'ai été la seule à voir, qui est un documentaire de Yamina Zouta sur le sang. Voilà, le sang comme fil rouge, comme liant, comme sève de l'humanité, et qui est traité sous toutes ses formes, que ce soit celui des règles. Il y a une très longue scène de au moins 3-4 minutes, je pense, où on voit le sang des règles couler de la réalisatrice elle-même à partir de ses poils pubiens. Donc celui des règles, de la greffe, du sida, le sang contaminé. On voit plusieurs personnages intervenir, que ce soit une chirurgienne, un médecin qui est responsable des greffes de sang, une femme qui s'est vue greffer du sang, des histoires en lien avec des enfants qui ont eu du sang contaminé, qui sont décédés, un transporteur de sang, etc.
C'est un point de vue français sur la question ou...
Alors, il y a un point de vue global dans le sens de l'identité, etc. Mais oui, sinon, c'est très français, surtout sur les procès du sang contaminé, etc.
Parce qu'elle a été journaliste pendant les procès du sang contaminé, c'est ça.
Alors, elle est touchée de deux manières. Déjà, elle a été journaliste pendant les procès du sang contaminé. Et ensuite, elle a appris dans son enfance que... Enfin, ses parents lui ont dit que petite, elle avait failli mourir. Et que elle s'est fait transfuser du sang. Donc, il y a toute une réflexion sur le fait que son sang n'est pas celui de ses parents, finalement, c'est celui d'un inconnu, ou de plusieurs inconnus. Elle ne sait pas qui c'est. Donc, j'ai trouvé que c'était un documentaire assez unique, déjà, parce qu'il est personnel, qui est un peu perché aussi, hein, mais en même temps ancré dans le réel, parce qu'il y a des interviews avec des vraies personnes. Qui mêle donc images d'archives, que ce soit des films, il y a des images de films comme Nosferatu, ou encore on voit l'homme des ailes du désir de Wim Wenders, l'ange, qui va se couper quand il arrive à Berlin, je
crois,
et qui découvre le goût du sang, et qui est narré à la première personne. Et donc, c'est un récit sur la filiation, sur l'identité, sur son identité à elle, parce qu'elle ne sait pas si... Enfin, elle appartient à ses parents, forcément, c'est très physique le son, mais finalement, génétiquement, elle ne l'est plus vraiment, parce que son sang n'est pas celui de ses parents. Et donc, ça nous fait nous questionner sur est-ce que le sang qui coule dans nos veines est vraiment le sang qui nous définit. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était assez insoutenable à voir. Enfin, moi déjà, j'aime pas trop le sang, je m'évanouis.
Ouais, mais là, il n'aura pas fait exprès ou quoi.
Je sais pas pourquoi j'ai voulu voir ça, je pensais pas qu'on verrait autant de choses. Et surtout qu'on entendrait des histoires affreuses sur. Par exemple, il parle d'un moment, je crois que dans les années 80, l'établissement français du sang devait aller demander du sang dans la rue aux gens. Donc les gens donnaient leur sang dans la rue en toute tranquillité, mais évidemment, il y avait des gens contaminés et ça, on le remarquait pas. Et des enfants se sont fait transfuser, ou même des parents du sang qu'ils ont transmis à leurs enfants qui étaient contaminés, les enfants sont morts avec des yeux énormes. Donc il y a un gros trigger warning là-dessus. Voilà, si vous voulez passer un agréable moment, allez-y.
Mais... saignant.
Saignant, exactement. Bon, bah, si vous voulez voir toutes ces jolies choses, rendez-vous au cinéma.
Allez au cinéma la semaine prochaine, il y aura de nouveaux films à la vie.
Et nous vous disons
au revoir.